On va passer tout de suite à la question macro de la semaine. Justement, ça revient à ce que vous étiez en train de dire. C'est-à-dire, on a ce décrochage de l'Europe par rapport aux États-Unis. Est-ce qu'il est inéluctable, hein? On voit que les États-Unis s'éloignent de plus en plus. On décroche sur la croissance, sur la productivité, sur la compétitivité. Alors, on a eu une réunion d'urgence des leaders européens. Je ne veux pas critiquer, je trouve ça très bien qu'on se mobilise, hein. Il faut qu'on bouge. Les mesures qui en sont sorties, alors on va pas cracher dessus, ça, tant mieux, il faut démarrer. Mais pour l'instant, j'ai rien vu de spectaculaire. Mais vous êtes d'accord avec ce constat quand même, Hervé, qu'il y a un décrochage, et notamment ce que disait Christopher sur la productivité?
Alors, la productivité européenne, alors sur les derniers trimestres, a été calamiteuse. Aux États-Unis, elle a été extrêmement heurtée, ce qui fait que, bien malin, qui peut dire quelle est la tendance actuelle de la productivité américaine? Parce que quand il y a des espèces d'énormes sauts de puce...
Alors on n'est pas sur une sorte d'envolée liée à l'intelligence artificielle, tout ça, c'est bidon, ça. Je vous pose la question.
Mais sur 10 ans.
L'intelligence artificielle, vous avez deux discours. Vous avez le discours des banques d'investissement et des grands cabinets de conseil internationaux qui disent... Attendez, vous allez voir ce que vous allez voir. Tout plein de gains de productivité vont en sortir. Quand vous faites la synthèse de la littérature académique sur le sujet, et le FMI l'a fait il y a 15 jours. Donc voilà, référez-vous au document du FMI.
Et il faut lire l'arrière de la page aussi.
Mais là, troisième page.
Je peux lire la première page.
Ce n'est pas pour vous, parce qu'il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image, c'est que du texte. Mais en fait, la conclusion du FMI, c'est qu'on est incapable de dire aujourd'hui quel sera l'impact de l'intelligence artificielle sur la productivité.
Okay. Donc productivité, vous dites, c'est pas sûr. Que les États-Unis...
Non, mais si on prend une focale courte, aux États-Unis, c'est très heurté et c'est calamiteux en Europe. Alors, le très heurté, vous calculez une moyenne et c'est mieux que l'Europe. C'est vrai, mais il ne faut pas oublier que c'est très heurté et on ne sait pas bien ce qui va se passer demain. Alors après, si vous prenez un regard long, la productivité européenne, c'est 0,4-0,5 points en moins qu'aux États-Unis. Sur 10 ans, ça fait beaucoup, beaucoup. Donc, dans les difficultés de la croissance européenne par rapport aux États-Unis, il y a une dimension de productivité, c'est vrai. La deuxième dimension, c'est que quand on prend les niveaux de PIB, on était au même niveau en 2005, il y a 20 ans. Aujourd'hui, il y a 10 ou 15% de plus aux États-Unis qu'en Europe. Si vous regardez le PIB par tête, c'est moins défavorable parce qu'il y a eu une démographie finalement plus favorable côté américain que chez nous. Le troisième élément, si on reste sur les chiffres en valeur, donc un équivalent chiffre d'affaires, c'est que les Américains ont beaucoup mieux manœuvré leur prix à l'exportation, qui ont monté plus que leur prix à l'importation, alors qu'en Europe, c'est l'inverse.
Sur
l'énergie. Donc il y a des tas d'éléments. Il n'empêche que quand on a dit tout ça, l'économie européenne est moins bien organisée que l'économie américaine, l'économie européenne est moins réactive que l'économie américaine, et ça, c'est de vrais sérieux problèmes pour nous.
C'est plié le match ou pas, Christopher?
Ah, ça va être dur, en tout cas, d'inverser la tendance. La réalité, c'est qu'il y a un tel retard qui a été pris. Et effectivement, je suis d'accord sur les gains de productivité dans l'IA, il faudra voir. Mais aujourd'hui, du côté américain, vous avez des vrais gains de productivité dans l'énergie. Et ça a un impact déjà extrêmement
perceptible. Dans l'énergie et dans la tech. Hein,
exactement.
Alors, bien sûr, parle Virginie, en permanence, c'est l'IA, peut-être pas l'IA.
Exactement, il y a d'autres sujets qui reviennent. Vous avez ce retard-là, vous n'avez aucune vision aujourd'hui européenne. La vision européenne, c'est énormément de communication, beaucoup de dogmatisme, des éléments de langage. Je sais, dans le passé, j'avais travaillé pour un ministre et il fallait faire rédiger les discours. C'est plein d'éléments de langage et l'Europe, c'est la même chose. On vous parle de souveraineté, d'indépendance énergétique. Aujourd'hui, on peut se féliciter qu'on est moins dépendant énergétiquement des Russes, quoique on achète du pétrole russe via l'Inde. Mais on a cette dépendance à l'égard des États-Unis. En l'espace de 3 ans, les importations de gaz naturel liquéfié en provenance des États-Unis, on est passé de 27 à 50%. Le problème européen, et sans vouloir être toujours négatif, c'est qu'il n'y a strictement aucune vision de long terme sur ce qu'on veut être. Alors c'est très bien d'être l'économie la plus solidaire, la plus verte au monde, etc. Mais ça veut dire quoi concrètement? Quelle industrie on met en avant? Est-ce qu'on met de l'hydrogène? Est-ce qu'on fait par exemple le pari de l'hydrogène? Parce que tout le monde met un peu d'argent sur ça. Mais si vous regardez ce qui est mis du côté américain, juste d'ailleurs par le Texas avec l'IRA, et ce qui est mis du côté français ou encore européen, il n'y a aucune commune mesure. Et donc c'est quand même le problème, c'est que c'est juste de la pure communication politique sans vision industrielle.
Donc vous dites que c'est plié.
Oui, c'est plié, mais il suffit de le regarder. Les peu d'industriels qu'on a en Europe qui réussissent, par exemple Stellantis, on n'est pas capable de mettre en avant le fait que c'est une belle réussite sur les dernières années. Donc il y a aussi cette incapacité à comprendre ce que sont les choix aujourd'hui industriels à faire.
Oui, alors le sujet, c'est qu'en fait, on a une économie, on l'évoquait tout à l'heure en tout début d'émission, qui bouge extrêmement rapidement. Vous rajoutez donc déjà, c'est assez compliqué pour les chefs d'entreprise d'être aussi mobiles que ça. Et vous rajoutez en Europe des réglementations sur plein de sujets et des marchés qui sont très morcelés. Ouais. Et donc on a pas de géant dans les télécoms, on a pas de géant dans l'énergie. Et un autre point qui fait aussi un gros différentiel avec les États-Unis, c'est le secteur de la défense. C'est-à-dire que nous, on a un secteur de la défense qui est très morcelé, qui reste sur des très carré, très marqué. Aux États-Unis, on n'a pas ça du tout. C'est d'ailleurs aussi une des raisons, on ne l'a pas évoqué tout à l'heure, du décalage entre l'Europe et les États-Unis. C'est qu'eux, on sont parfaitement organisés sur le plan de la défense pour leur propre budget, les dépenses militaires américaines. Non, ça, on ne me chauffez pas là-dessus, parce que je suis très chaud là-dessus. Mais, et donc, ils ont des dépenses militaires qui sont... Ils sont très forts sur ce sujet-là. Et puis, ils sont également...
ESG, ça, la défense.
Non, c'est pas du tout ESG. Okay. Il me coupe. Et donc, ils ont pour eux, le budget américain de la défense est aux alentours de 900 milliards par an. Enfin, on est quand même sur un truc qui est juste complètement délirant, qui accélère massivement en ce moment, parce qu'ils vendent à tour de bras à travers la planète. Donc, on a ces deux décalages-là. Mais enfin, pour revenir à la différence, c'est que nous, on est très morcelé, très réglementé, donc beaucoup moins mobile, et donc dans des périodes comme en ce moment, c'est très difficile d'aller aussi vite que les Américains. Mais je ne suis pas aussi inquiet, je pense qu'à un moment donné, il va y avoir un choc.
Bah, le choc, on l'a déjà.
On va se bouger. Quoi. Et je pense que le choc, là où on va bouger le plus vite, parce que c'est aussi le plus simple, c'est la finance.
Sans caricaturer, quand vous allez aux États-Unis et que vous voyez toutes ces entreprises de la tech, vous étiez dans la Silicon Valley, vous vous dites, vraiment, on est à la rue, quoi.
Je ne dis pas on est à la rue, je dis que là-bas... J'ai l'impression que c'est ça fourmille, ça travaille. Et il y a un mot qui est quand même tabou partout, c'est travail.
Si on veut créer de la valeur. Personne n'est là. Hein. Merci d'être venu. Mais alors, cette semaine à Paris, on est en vacances.
Attendez la semaine prochaine.
On a l'impression que c'est...
Non, mais la création de valeur, on le sait, c'est le travail. Depuis 20 ans, on vit beaucoup plus longtemps. On travaille de moins en moins. Et si vous regardez les mêmes chiffres aux États-Unis, ils travaillent toujours autant par personne. C'est symptomatique. Donc, je ne dis pas que c'est... On peut refaire quelque chose. Alors évidemment, il y a des histoires de foisonnement réglementaire.
On n'a pas de géant dans la tech, c'est un peu emmerdant.
Ouais, mais on n'a qu'à se réveiller, on n'a qu'à travailler. Voilà, c'est moi je dis travail.
Là, juste un commentaire sur le travail, parce que je suis complètement d'accord. Vous avez des élections aujourd'hui dans certains pays, notamment en Belgique. L'un des sujets aujourd'hui qui est évoqué, c'est comment on va essayer de réussir à travailler 32 heures par semaine. Et je ne vous parle pas de parti extrémiste, je vous parle de parti de gouvernement. Donc ça traduit aussi une vision européenne, qui est une vision de société des loisirs, mais les loisirs, il faut quelqu'un qui les finance, ou en tout cas qu'on s'endette. Et donc on a une dette à l'égard de quelqu'un.